7 minutes, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1, en espérant que vous passez un bon début de journée. 418-971-102.1, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous en informer. On reçoit des amis du secteur Saint-Roch. J'ai le plaisir de lui parler pour la première fois. Je le vois passer une fois de temps en temps dans mon quartier. Ça fait quelques années aussi que... il y a de ça quelques années, j'avais été à son restaurant. On avait été bien accueillis. Napoléon Wu, qui est l'ex-candidat pour Leadership Québec, équipe Saint-Mamad. Très content de vous accueillir en studio, M. Wu.
Bonjour.
Est-ce que je prononce bien votre nom de famille? Je veux pas le scraper.
Wu.
Juste à vous rapprocher près du micro pour être sûr certain que les auditeurs puissent vous entendre. Et en studio, j'ai le plaisir d'avoir aussi Louis Campagna, qui est ancien président du conseil de quartier de Saint-Roch. Monsieur Campagna, bonjour.
Bonjour, enchanté.
Merci d'être là. Jeff, peux-tu nous rappeler les commentaires de Napoléon Wu du temps où il était candidat pour l'équipe de Saint-Mamad?
Bien, Monsieur Wu pourrait nous les dire mieux, mais ce que Monsieur Wu a rapporté, dans le fond, c'est une culture de l'itinérance qui permet justement... aux organismes de demeurer en vie et où les itinérants, on prend soin des itinérants, les logeant, les nourrissant, que ça favorise cette culture-là. Et à l'époque, là, c'est Stéphanie Martin qui l'écrit dans le Journal de Québec sur sa page Facebook. Il a écrit « La ville devrait avoir un lieu de rétention, idéalement l'ancien poste de police. Il pourrait ramasser les gens des campements s'ils sont trop agressifs ou en psychose. Ouais. Il y a des cellules, clôture une partie du parc pour leurs besoins, faire le tri, renvoyer les migrants dans leur patelin. Les ressources devraient être pour les itinérants du coin. »
OK, on va entendre un extrait qu'on a ici à la station.
L'itinérance devrait être une période de transition, pas un genre de culture là, que vous mangez gratuit, vous avez des logements gratuits, vous avez des vêtements gratuits. Aujourd'hui, à Québec, tu n'es pas obligé de travailler pour vivre. Tu sais, il n'y a personne qui est mort de foie là, ou de faim. Tu sais, à Saint-Roch, il y a 13 organismes là, qui donnent la nourriture au monde. Là.
Monsieur Wu, très content de vous jaser puis de vous donner le droit de parole aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous en êtes venu à utiliser ce genre de vocabulaire-là, émettre ce genre de commentaires-là?
Mais c'est la vérité, là. Tu sais, le culture de l'itinérance, comme j'ai dit, là, tu peux vivre à Québec sans travailler, vous êtes nourri, logé, des vêtements gratuits, là. Personne n'est obligé de travailler à Québec pour vivre, je le répète, là.
Mais comment on pourrait aider ces gens-là autrement que la façon dont on le fait présentement? Parce que, tu sais, j'ai mentionné, on en parlait tout à l'heure avec Denis dans le Pit Stop. Vous, là, vous êtes directement dans l'endroit où il y a une problématique. Votre façade donne sur Charest et derrière, c'est vraiment un lieu de vente de drogue, là.
Oui, à ciel ouvert.
À ciel ouvert. Donc, oui. Vous êtes directement dans Poutine, là. Fait que vous savez de quoi vous parlez pour ce qui est des problèmes de toxicomanie, problèmes d'alcoolisme. Est-ce que le bout où vous parlez de la centrale de police du parc Victoria, c'était vraiment sincère?
Oui. Mais, regarde, il y a des tentes un peu partout. Ça commence à pousser partout. C'est le rivière Saint-Charles. Tu sais, ces gens-là, ils ont besoin d'une place pour faire du camping. OK?
Ouais.
Il y a une partie de Parc Victoria où c'est bien, il y a de verdure et tout ça. Il faudrait donner accès à ce monde-là. Il faut leur donner accès à ça. En plus, ils pourraient nipper le Parc Victoria un peu, qu'il y ait une place pour dormir, s'il veut, s'il pleut, dehors, les nourrir, les aider, ils prennent une bonne douche. Tu sais, puis il y a du monde qui sont en psychose. Là. Faudrait les mettre là. Il y a des cellules pour les aider.
OK. Mais en fait, ce que vous vouliez dire, c'est d'avoir un endroit, comme on avait à l'époque à Robert Jufort, là, où les gens qui étaient en problématique de santé mentale, problématique des épisodes de schizophrénie et tout ça, on les mettait là pendant un certain temps. Puis le moment où ils pouvaient réintégrer la société, ben, on pouvait les relâcher.
C'est ça.
OK. C'est ça. Je comprends très bien.
Robert Jufort, là, il y avait une ferme à côté, là, oui. Il faisait du fromage. Mais c'est ça. Il faut leur donner quelque chose, une espérance dans leur vie, là. Que juste d'aller dans une piquerie, puis se shooter, puis aller manger, puis retourner se piquer, puis tu sais.
Avez-vous l'impression que vous avez des mots durs à l'égard des itinérants? Parce que je le sais, ce que vous vivez, M. Hou, ça fait pas aussi longtemps que ça que vous, que je suis dans le quartier. Je suis né dans le quartier Saint-Roch, puis à partir de 30 ans, je suis parti, j'étais allé un peu plus en banlieue, puis là, je viens de revenir. Et je constate que Saint-Roch, M. Hou, est rendu magané comme pas possible. Il y a énormément de commerçants qui me jasent en me disant « Yann, ça n'a pas de bon sens. J'ai toujours fait affaire ici. Ça a bien été. Et là, je suis en train de penser à me retirer, peut-être aller un peu plus dans le secteur Le Bourgneuf et tout ça. Fait que je le sais ce que vous vivez, mais si vous aviez à reprendre les mots là, que vous avez utilisés, est-ce que vous diriez les diriez autrement? Parce que ça a fait en sorte que l'équipe de Samamad vous ont complètement tassé.
Bon, c'est plutôt les médias, là. C'est les médias de Bruno Marchand, Journal de Québec, puis toute cette gang-là. Là.
Oui, mais c'est grâce à vos propos. Vous avez tenu ces propos-là, M. Hou. Oui. Mais les médias, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent rapporter la nouvelle quand ils veulent, mais c'est vous qui avez tenu ces propos-là. Là.
Oui. OK. Moi, je sentirais ces propos-là. Ben, regarde, mon père est venu ici en 1920.
Oui.
Il n'y avait rien dans ses poches, sauf ses mains.
Vous avez fait le plus beau quartier qu'on avait, d'ailleurs, sur Saint-Vallier.
Il parlait pas anglais. Ouais. Il parlait pas français. Il a réussi à faire sa vie. Il a pas été à l'école. Tu sais, il était handicapé, là. Il est venu ici, puis il a fait de quoi avec sa vie. Comme ça, quand je vois le monde en arrière de chez nous, là, qui ont tous eu une éducation, puis parlent la langue, puis des ressources pour les aider, là, pourquoi qu'ils s'en sortent pas? Pourquoi... Il y a des communautés là, qui pensent que les entuber là, avec la drogue et tout ça, là, c'est la chose à faire. Regarde.
Est-ce que vous les aidez de fois de temps en temps, ces gens-là? Est-ce que vous les avez aidés dans le temps?
Ben oui, ils viennent chez nous. Mm-hmm. Ils viennent manger chez nous. Ils viennent. Puis ils sont pas pareils comme dans la rue. Là. Quand ils viennent, ils ont des yeux ouverts. Ils sortent de l'argent. Ils sont fiers de payer quelque chose. Ils sont fiers, tu sais. Tandis que quand tu donnes quelque chose gratuit, là, t'es en train de dire au gars, t'es pas bon, t'es pas capable de travailler, t'es pas capable de faire ci.
Ouais. Comment ça s'est passé? C'est Samamad qui vous a appelé pour vous dire que c'était terminé? C'est vous qui l'avez appelé? Parce que là, les médias ont dit que vous étiez désisté. C'est-tu vrai?
La vérité, c'est que j'étais comme écœuré, là. J'étais tanné des médias, là. Des médias qui arrêtent pas d'être tapés sur nous autres, là. Sur tout ce que je dis. Tu sais, je suis souvent mal cité. Ils disent pas des vraies affaires. C'est Journal de Québec, puis toute la gang, Karine Gagnon, puis toute cette gang-là, il dit pas la vérité. Là.
C'est l'impression que vous avez.
Reconnaissez-vous que l'itinérance, c'est quand même une problématique qui est plus complexe que j'ai eu de l'éducation. Vu que j'ai eu de l'éducation, je devrais pas être un itinérant. Il y a de la santé mentale là-dedans, il y a de la toxicomanie. C'est plus complexe que ça en a l'air. C'est pas juste j'arrête de te donner à manger, tu vas te trouver un job.
Non, c'est pas si compliqué que ça, là. Tu sais, le monde, là, faut que tu les réapprennes, puis tu les reboot, là. Faut que tu les reboot, garde.
Comment on fait ça pour les rebooter?
Mais tu les encourages de retourner à l'école, tu leur donnes des ressources. Il y en a qui veulent s'en sortir, mais ils sont pénalisés parce que des groupes communautaires donnent aux oiseaux qui crient le plus fort. Comme ça, la femme monoparentale qui a un enfant, elle a vu s'en sortir à deux jobs puis ça, là, tu sais. Faut aider le monde qui veut s'en sortir en premier. Le monde qui veut pas se faire aider, là, tu... Regarde, là, il y a des limites à la compassion, l'empathie à l'infini, là. Il y a des limites à ça. Il y a des limites à des ressources, l'argent.
Mais l'idée, c'est pas de les faire mourir à l'extérieur, monsieur.
Ben non, c'est les aider, de les prendre en main, les aider. Là.
Faire quelque chose. OK, je comprends, je l'entends.
Ouais, puis j'avais une petite deuxième question concernant le centre, là, justement, d'injection supervisée. Il y a des gens qui travaillent justement à les sortir de leur toxicomanie, puis c'est une façon de les amener, puis de prendre contact avec eux. Est-ce que vous reconnaissez ça ou pour vous, c'est... C'est juste de la scrap, yeah. Là, ce centre-là.
En 2018, là, ils ont donné, Mario Gagnon, là, il a dit qu'ils ont donné 400 000 sirènes. 400 000, OK? Puis, quand on a parlé avec le président du CIUS, il a dit que c'était une façon pour la réduction des méfaits, puis un genre d'approchement à ces gens-là pour qu'ils rentrent, qu'ils puissent dire, garde, faut pas que tu restes de même. Mais c'est plus de même, là. OK? C'est... Puis la réduction des méfaits, là, ça n'existe pas. Vous avez juste à regarder le quartier. OK? Comme point de repère, là, 400 000 sereines. Après ça, tu as un deux zones. Il y en a combien qui se promènent? Puis eux autres, le but, c'est juste de faire ça. Tandis que la population, on est pogné avec ça. On ne peut même pas marcher nos chiens avec des sirènes partout. Puis là, ils engagent, ils font le bienfaisant. On engage du monde pour ramasser des sirènes. L'affaire la plus simple avec ces sirènes...
C'est des seringues.
Seringues, oui.
Ouais, okay, je comprends.
L'affaire plus simple, là, pour ramasser ça, c'est de gagner chaque fois que vous ramenez une seringue, on te donne 50 cents. Là, il n'aurait plus de seringues dans la rue. Là. Okay.
Mais avec les piqueries supervisées, les seringues ne quittent pas les piqueries.
Les lieux, là. Oui, oui. Ils donnent un poche, là, avec des condoms, avec un garrot, avec une affaire pas allumée pour faire du crack. Et puis, ils donnent la seringue. Tu peux aller là, tu le prends, puis tu pars avec.
Vous pouvez sortir avec la seringue.
Ben oui.
Après l'injection.
Ils donnent en poche. Puis même dans des pharmacies, là, ils font des distributions de ça. Ça coûte une pièce.
À la pharmacie, peut-être, mais dans l'épicerie supervisée, il n'y a aucune seringue qui sort de là. On va jaser, si vous le voulez bien, M. Hou, avec Louis Campagna qui vous accompagne, qui est l'ancien président du conseil de quartier de Saint-Roch, qui est un résident de Saint-Roch. Très content de vous jaser, M. Campagna. Pourquoi avoir accepté de venir ici à l'émission?
Parce que c'est un enjeu qui est important, parce que c'est un enjeu qui concerne la qualité de vie de mon quartier, où j'ai choisi d'établir ma famille, où je suis là depuis 2008. Et effectivement, j'ai siégé au conseil de quartier de Saint-Roch, puis j'en étais le président là durant 3 années. Donc, c'est quoi le problème? De quoi qu'on parle au juste? De qui qu'on parle? Les chiffres que je vais vous donner là, je tiens ça de la Direction générale de l'Aube-Rivière, c'est des chiffres de 2022-2023, puis ce qu'on me dit, c'est que la croissance est d'environ 10% là, par année, OK? Puis c'est des chiffres qui sont arrondis, on s'entend. Donc, on parle de 5000 visages différents qui se présentent à l'Aube-Rivière en 2022-2023. Là-dessus, là, il y en a 1000 personnes qui vont remettre sur pied, puis qui ne reverront plus, OK? Ça, c'est des gens qui ils vivent une pause dure, ils remettent sur pied, puis ils ressortent. Puis
fait que sur 5000, il y en a 1000 qui partent puis qui réintègrent la société.
Exactement.
Ensuite, de ça, c'est 20% de taux de réussite, c'est bien.
Après ça, les 4000 autres aussi, ils desservent. Ça, c'est des cas qui sont plus chroniques. Sur le 4000 en question, encore là, les chiffres de 2022-2023, là, sur les 4000 qui restent, il y en a 200 qui arrivent au seuil de porte puis ils ne peuvent pas y laisser rentrer parce que problème de santé mentale, problème de toxicomanie, ils sont obligés de les laisser à l'extérieur. Et c'est ces gens-là qui se tiennent autour de l'Aube-Rivière et ailleurs dans le quartier et qui vont causer la plupart des problématiques reliées à, justement, les incivilités. Donc, si on prend le règlement sur l'appel bonheur de la Ville de Québec puis on défile les articles de choses qu'il ne faut pas faire dans le quartier, dans l'espace public, bien, eux autres, ils vont le faire. Donc, à ce moment-là, c'est ces gens-là qui sont la source des problématiques qui confrontent, si on veut, les citoyens, les gens d'affaires, les travailleurs, les touristes, les clients qui viennent acheter dans le quartier, qui confrontent toutes ces personnes-là à ce qu'on appelle un marché de drogue à ciel ouvert parce que la consommation fait partie de la problématique, bien entendu, et aussi la maladie mentale.
Vous souhaiteriez quoi pour Saint-Roch? C'est quoi vos solutions pour régler une fois pour toutes les problèmes de Saint-Roch? Puis je vous répète, là, moi je suis né dans ce secteur-là. Fait que j'ai vu Saint-Roch qui n'était pas hyper magnifique. Là. Moi j'ai connu Enjamet 30 sous, ça doit vous dire quelque chose, cette fameuse légende-là. Puis je sais que M. Hou le côtoyait aussi. Une dame formidable. Moi je l'ai connue quand elle était autour de 60-70 ans. Donc elle était rendue une dame qui aimait bien jaser puis discuter un peu avec tout le monde dans le quartier. Mais après ça, j'ai quitté. Puis je suis revenu avec une impression d'asile à ciel ouvert, où des gens qui étaient intoxiqués par la drogue et l'alcool prenaient le quartier pour un endroit où ils pouvaient rester s'abriter avec les abris d'autobus, exemple. J'en avais parlé avec M. le maire il y a de ça quelques semaines. Monsieur Hou, il faut éteindre le cellulaire. Et là, je me ramasse le soir, j'arrive dans mon quartier, toutes les poubelles sont éventrées, sont toutes mises à terre. C'est quoi vos solutions pour régler définitivement le problème? Vous vivez dans ce quartier-là depuis 2008, vous m'avez dit.
La solution, bien, pour commencer, c'est d'en parler ouvertement, puis de faire le tour de ce qui existe comme idée. Ne pas s'en tenir à la bien-pensance qu'on a constaté dans les médias dans les derniers jours. Tu sais, il y a bien du monde qui ont parlé contre ce que M. Hou a dit. C'est des gens qui sont dans des positions de pouvoir depuis 4 ans, depuis 8 ans. Ils l'ont-tu la solution, eux autres? Non, ils n'ont rien réglé, eux
ben,
autres.
Ils veulent mettre plus d'argent, comme
ils ont
fait
rien,
tout le temps.
Ils n'ont pas la solution. Fait qu'à ce moment-là, quand on est face à un problème complexe, puis que la solution... on ne l'a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On se tait, on écoute, puis on réfléchit. Parce qu'il y a des solutions en dehors de la boîte. Puis là, M. Hou dit des choses. Moi, je connais M. Hou, c'est un homme de cœur. C'est un homme qui tient à son quartier, puis c'est un homme qui a de la compassion pour les gens en arrière de son restaurant. Donc, moi, ce que je dis, c'est que on doit prendre en charge des individus qui ont perdu la capacité de prendre soin d'elles-mêmes. Et je n'invente rien. Donc, en Europe... ils ont connu la crise de l'héroïne des années 80, 90, 2000. Donc, on a des solutions qui existent ailleurs dans le monde. Alors, la docteure Claire Gamache, présidente de l'Association des médecins et psychiatres, a passé en entrevue le 15 septembre dernier à Radio-Canada. Et elle a dit très bien, la solution, là, je vais vous la donner, OK? Le Code civil du Québec, article 11, consentement aux soins. réfère à une loi qui s'appelle la loi P38.001. Cette loi-là, c'est la prise en charge des personnes qui représentent un risque pour elles-mêmes ou pour les autres. Ce que la docteure Gamache dit, c'est qu'on doit assouplir le critère de danger immédiat. C'est-à-dire que la loi dit que pour prendre quelqu'un en charge de gré ou de force pour le soigner, OK, qui est quelqu'un qui est dans la rue, il doit y avoir un danger grave et immédiat. Et ça, c'est trop. Le critère est trop serré parce qu'on a des cas, hein? On l'a vu avec le cas de la policière de la SQ à Louisville, on l'a vu dans le nord de la ville, un voisin qui a été tué par une personne qui est décompensée, qui était en délire. Donc, c'est que les familles le savent quand les gens commencent à se détériorer, à se déstructurer. Et puis dans la rue, c'est pas tout le monde qui est dangereux dans la rue, mais le problème, c'est qu'on abandonne des personnes qui ne sont pas suffisamment dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres pour être prises en charge à l'aide de cette loi-là. Il faut assouplir cette loi-là. Et les gens qui refusent les soins parce que c'est pas leur tête qui parle, c'est la drogue qui parle ou la maladie mentale, on peut pas les abandonner dans la rue.
Est-ce qu'on peut rouvrir Robert Giffard pour ces gens-là? Parce qu'il y avait une cour, il y a deux ou trois cours intérieures à Robert Giffard qui permettaient à ces gens-là de pouvoir voir la lumière du jour puis être soignés par des gens qui étaient professionnels. Puis s'ils pouvaient sortir à l'extérieur, on les laissait sortir. Moi, j'en ai connu un qui s'appelait Gamache. C'est-tu Fardoche? Meloche! C'était M. Meloche. Puis il se promenait à la grandeur du Québec, puis on savait que c'était un enfant de Duplessis. Puis il était à Robert Giffard. Mais c'était quelqu'un qui sortait pendant le jour, il ramassait des canettes, puis il nous jasait, puis il nous demandait nos dates de fête. Puis 6 mois plus tard, il nous recroisait, puis il nous donnait notre date de fête. Mais lui, il n'était pas capable de s'occuper de lui. Fait qu'il retournait toujours à Robert Giffard. C'était son endroit, c'était sa maison. Puis quand il avait besoin de médicaments, ben c'était là. Quand il avait besoin d'infirmière ou d'un psychologue, c'était là. Là, on les a sortis dans la rue, c'est rendu un asile à ciel ouvert.
Ben exactement. Puis tu sais, l'autonomie, puis la liberté individuel, on a accordé beaucoup de place à ça, mais le pendule est peut-être allé trop loin, en ce sens que on a désinstitutionnalisé, on a fermé les instituts psychiatriques ou fermé des ailes, etc. Sauf que le crime, l'asile est rendu dans la rue, puis les psychiatres, c'est rendu les vendeurs de drogue, puis les proxénètes. On abandonne les personnes les plus vulnérables de notre société au crime organisé à Québec. Ça n'a pas d'allure, c'est irresponsable ce qu'on fait là. On doit prendre ces personnes-là en charge, on doit les protéger. Puis comme je vous dis, si moi, mon enfant, ou si moi-même, je me retrouve dans un état comme celui-là, lui-là, je vous en prie, prenez-moi de gré ou de force, soignez-moi. Dans 5 mois, je vais vous remercier.
Je suis clairement d'accord avec vous qu'il faut donner plus de latitude, justement, pour prendre ces gens-là et les amener à se soigner, à se faire soigner. Gouvernement du Québec, la problématique, il faut aller cogner à la porte de Lionel Carman?
C'est certain que les trois paliers de gouvernement, parce qu'au fédéral aussi, il y a toute la question du code criminel, puis comment l'intervention policière dans tout ça, mais c'est sûr que le gouvernement du Québec a un rôle important à jouer, sauf que le municipal, c'est pas vrai qu'il peut juste s'asseoir puis attendre. Il y a un leadership qui est requis du municipal, et notamment la police municipale de Québec, c'est pas vrai qu'elle écoute pas le politique à Québec. Je veux dire, il y a des consignes qui sont données aux policiers, à l'équipe multi, de la manière d'approcher les choses. C'est pas compliqué. La classe politique à Québec ne veut pas voir, exemple, des itinérants en menottes, ça paraît pas bien. Hein? Donc, mais c'est parce qu'à un moment donné, on ne peut pas abandonner ces personnes-là à leur sort, ouais, avec uniquement l'approche de la réduction des méfaits. Les exemples européens le démontrent. C'est pas seulement le pôle réduction des méfaits qui fonctionne. Il doit aussi avoir une prise en charge puis une répression des comportements qui détériorent le quartier.
On est en pleine campagne à la mairie de Québec. C'est quoi vos attentes claires pour le prochain maire de Québec, soit Bruno Marchand, Sam Hamad, Stéphane Lachance ou Claude Villeneuve?
Moi, ce que je veux, c'est que tous les candidats, partis ou indépendants, parlent ouvertement, OK? Donc, on met de côté la bien-pensance, OK? On met de côté les idées reçues, on ouvre le débat sur qu'est-ce qu'on fait à Québec de la problématique, de la désaffiliation sociale, de la maladie mentale et de la toxicomanie.
Mais quelle action concrète vous voulez? Parce qu'en parler, là, t'sais, Bruno Marchand en parle, il a fait un sommet de l'itinérance, Claude Villeneuve en parle tout le temps, Sam Hamad en parle en disant qu'il a été président du CA de l'Aubrivière. T'sais, c'est quoi les actions concrètes que vous avez besoin dans le prochain 4 ans. Là. C'est le temps, là, on est en campagne électorale.
Ça prend un changement de cap. Donc, le logement d'abord n'est pas la solution. La ville de San Francisco, avec son nouveau maire, le maire Lurie, en mai 2025, c'est tout récent, ont changé le cap par rapport à comment est-ce qu'on adresse l'enjeu justement des personnes dans la rue. Alors, ils sont partis de Housing First, logement d'abord, et maintenant c'est Recovery First, le rétablissement d'abord. Alors, on doit regarder la ville de San Francisco, qui est un peu, si on veut, un phare en termes de situation de gens dans la rue, toxicomanie, maladie mentale. Regardez eux autres les leçons qu'ils ont apprises, puis comment ils ont changé leur approche. On doit faire ça à Québec aussi, le rétablissement d'abord.
Les désintoxiquer.
On doit sortir ces gens-là de l'emprise de la drogue. On doit les aider lorsqu'ils souffrent de maladies mentales et on doit les enlever justement du grappin du crime organisé qui les rend dépendants au niveau de la drogue, qui les utilise en termes de trafic sexuel, etc.
Pourquoi vous vouliez vous impliquer, M. Hu, en politique? C'était quoi votre motivation?
Moi, je voulais qu'Edmond sache que ce qui se passe à Saint-Roch.
Ouais.
Qu'il y a une culture d'itinérance, l'industrie de l'itinérance, où ils profitent ces gens-là, puis ils font de l'argent avec ces gens-là.
Et pourtant, la plupart des gens qui travaillent pour ces organismes-là, c'est pas des gens qui gagnent énormément, vous le savez, c'est des gens de cœur, là.
Les gens de cœur, c'est des grunts là, qui travaillent sur le terrain, là. T'as des directeurs, puis des assistants directeurs, là. Puis ils gagnent tout. Ils sont supposés d'exposer le salaire. Vous avez juste à garder ça.
Je me permets juste un commentaire. Donc, pour vous, Éric Boulay, qui est directeur de la maison L'Aube-Rivière, il gagne trop cher, puis c'est pas une bonne personne, il travaille pas pour les gens d'itinérance. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Là. Non, je sais pas c'est quoi le salaire d'Éric, là, mais je parle des organismes là, plus petits, là. Okay, Éric, il a fait ses preuves.
Donc, les organismes communautaires ne travaillent pas pour l'itinérance, ils travaillent contre l'itinérance pour pouvoir continuer à avoir des subventions. Moi, je viens du domaine communautaire. Là. Ça n'existe pas ce que vous dites. Là.
Oui, ça existe. Vous avez juste à regarder dans le
Non, ça n'existe pas ce que vous dites,
moi,
monsieur.
Je vais vous poser une question. Okay? On peut-tu, dans un débat ouvert, okay, où on regarde tous les horizons, on peut-tu se poser la question s'il existe des. Il existe des incitatifs pervers qu'on voudrait justement relever puis corriger. Est-ce qu'il existe des accoquinements politiques entre certaines organisations et la classe politique? Est-ce qu'il y existe, par exemple, des idéologies qui sont contraires aux intérêts des principaux intéressés qu'on veut servir avec la mission des organisations? On peut-tu au moins se poser la question? On peut-tu poser la question publiquement?
Vous êtes vraiment en train de remettre en doute les gens qui travaillent avec un salaire de 40-45 000 $ par année.
Moi, je pense
pour
que...
aider les gens dans la rue.
Moi, je pense qu'il y a un
qui travaillent du 65, ouais. 70, 80 heures par semaine, qui comptent jamais leurs heures, qui sont accompagnés les plus vulnérables. Vous êtes vraiment en train de remettre en doute le fait qu'ils sont des missionnaires de notre société?
Bon.
C'est ce que vous faites, M. Campagnol?
Je peux-tu répondre à la question?
C'est ce que vous faites?
Oui, mais c'est le temps de te répondre. Garde, je pense qu'il y a un spectre dans les organisations. Je pense que ça va du meilleur au pire. Je pense qu'il y a des gens qui sont dévoués, qui ont la main sur le cœur, puis qui donnent, puis qui comptent pas leurs heures. Ça existe, puis ils rendent service à la communauté. Je pense qu'à l'autre extrême, parce que dans le spectre, il y a un autre extrême, il y a des gens qui sont extrêmement idéologiques et qui vont nuire à leur mission première par leur instrumentalisation idéologique et politique. Ça existe aussi, monsieur, puis on doit en parler, puis on doit le nommer.
Commencez par frapper sur les grands noms des organigrammes à Santé Québec, puis au CIUS, mais frappez pas de grâce sur les gens qui sont dans la rue et qui travaillent avec l'itinérance. Ils font partie de la solution.
Moi, monsieur, je ne frappe sur personne, mais je me permets de poser des questions et puis de s'empêcher de poser des questions par, comme on dit, bien-pensance ou par compassion narcissique. Je pense pas que c'est la manière qu'on va régler le problème dans Saint-Roch et ailleurs au Québec.
Une chose est sûre, c'est que ça fait des années qu'on utilise les mêmes méthodes, c'est-à-dire de réinjecter toujours plus d'argent. Le même marchand qui a un projet sur 5 ans à peu près d'injecter 100 millions de $, il fera pas les choses de manière différente. Puis à un moment donné, il faut essayer d'autres choses. Puis ça passe-tu par des moyens plus drastiques en se posant la question « Hey, est-ce qu'on peut leur trouver un endroit à ces gens-là pour qu'ils puissent se désintoxiquer? » Que ce soit par l'alcool, que ce soit par la drogue. Le fait est que Saint-Roch actuellement, c'est un asile à ciel ouvert. Il y a énormément de maladies mentales. Y a-t-il un endroit où on peut soigner ces gens-là convenablement, puis en s'assurant qu'à un moment donné, mais quand ils reviendront sur Terre, ben, ils puissent être capables de se trouver un emploi. Ils puissent être capables de réintégrer la société, par la suite avoir un toit, bien entendu, sur la tête. Mais là où on se rejoint peut-être, M. Campagna, c'est des fois essayer des affaires différentes pour avoir un résultat différent plutôt que de toujours prendre l'argent du contribuable pitchait ça là-dedans. Je me souviens encore quand il y a eu le massacre à l'Halloween. Souvenez-vous, il y avait eu Lionel Carman, puis il y avait eu Geneviève Guilbeault qui avait dit « On va injecter 100 millions de dollars pour ce qui est de l'aide psychologique parce qu'il y a des gens qui vont pas bien. » Ben, les gens qui sont sur le plancher des vaches, les gens qui sont bénévoles ou encore qui travaillent pour des organismes n'ont jamais vu la couleur de cet argent-là. Sauf que les politiciens avaient fait leur conférence puis avaient fait le tour du Québec avec cette belle conférence-là sur le 100 millions de dollars d'aide psychologique. Mais les gens qui travaillent sur le terrain n'ont pas vu cet argent-là. Il y a des choses qui se passent au-dessus de nous. Puis concrètement, nous, quand on regarde sur le plancher des vaches, on regarde les gens qui sont malades dans le secteur Saint-Roch, puis on se dit « t'es peu, là ». On paye des taxes et des impôts. Les politiciens sont supposés d'aider ces gens-là avec les organismes qu'on parlait tout à l'heure. Puis ça change pas. Fait que la solution, c'est que des gars comme vous, des gars comme M. Hou, continuent de s'impliquer. Je sais pas si M. Hou, pour vous, la politique, c'est fini. Là. Ça va être long, mais...
Je pense pas que ça va être fini.
Non? On va réentendre parler de vous?
Oui.
Quelle façon?
Mais je sais pas. Moi, je pense que... Mon ami ici, Louis Campagnès, c'est un bon candidat.
Ah oui?
Un très bon candidat pour Saint-Roch.
Vous avez jusqu'au 3 octobre, M. Campagnès.
Oui.
Ben, j'apprécie la confiance, merci.
Puis, regarde, si on peut parler de CIUS, là, ça, c'est une des plus gros partenaires de Marie-Pierre Boucher. Mais là, le CIUS, là, il y a du monde qui meurt dans des salles d'hôpital. Tu vas à l'hôpital, tu peux attendre 2 jours avant de passer. Il y a du monde... Des gens âgés qui meurent dans sans air conditionné, là. Tu sais, peux-tu faire confiance à CIUS pour régler le problème?
Ben eux semblent être bien intentionnés dans le dossier, mais vous remettez leur intention, vous doutez de leurs intentions. Ça, c'est votre c'est votre façon de voir les choses. Messieurs, ça a été un plaisir de jaser avec vous, monsieur Hou. On va se recroiser dans le quartier, c'est sûr et certain. On est voisins.
Vous voyez mon chien?
Oui. Mon chien. Le resto, il ouvre à quelle heure? Hein?
Le restaurant est fermé encore parce qu'on a eu un feu.
Ouais.
Puis là, je suis pris avec la régie des bâtiments. Eux autres, ils veulent que je monte mon hut sur le toit.
OK.
Puis là, le hut est à quoi 12 pieds dans des airs. Des pompiers ont venu éteindre ça tout de suite. Mais là, sur le toit, il y a des fils électriques, oui. Il y a plein d'affaires, des fenêtres, puis ça. Mais c'est ça. Je vous demandais...
Vous êtes là-dedans. On a hâte que votre restaurant puisse ouvrir. Là.
Ça va,
travaillez plus fort.
Il va y avoir une charge.
Merci, M. Hou.
Salut, merci.
M. Campagnat, ça a été un plaisir. Je vous souhaite de passer une belle journée. Merci d'avoir été à l'émission.
Apparemment, merci.
On va faire une courte pause. Si vous avez des choses à nous dire, 88-971-1021. 88-971-1021, on vient.
Boulevard 102. Merci. Marceau.